François Schwab, bonjour.
Bonjour, vous êtes... merci de votre invitation.
On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes historienne et philosophe et vous avez participé depuis de nombreuses années parmi vos travaux à la diffusion, l'édition et une meilleure connaissance de l'œuvre de Vladimir Jankélévitch. Et aujourd'hui, vous faites paraître chez Albin Michel une biographie qui est une biographie à la fois existentielle et intellectuelle de son œuvre aussi, sous le titre « Le charme irrésistible du je ne sais quoi ». Je tiens à noter, parce que c'est très important, que paraissent en même temps, sous votre direction aussi, le cahier de Lerne, Jankélévitch, donc aux éditions de Lerne, qui est un recueil absolument passionnant à la fois de contributions d'intellectuels et de philosophes, mais aussi avec des textes inédits de Jankélévitch. Et puis enfin, toujours aux éditions de Lerne, La conscience juive, qu'on évoquera, qui est un texte assez important autour justement du rapport entre Jankélévitch et le judaïsme. Alors Jankélévitch est un nom à la fois, comme il arrive aux philosophes, connu et pas forcément aboutissant à de nombreuses lectures. Donc c'est très important, je pense, et c'est ce que parvient à faire votre biographie, de rendre l'homme dans son épaisseur et l'œuvre dans sa finesse. Alors peut-être pour commencer, tout simplement, à un moment, un trait de jeunesse qu'il fait à l'un de son grand ami philosophe, où il évoque l'idée qu'il serait lu au XXIe siècle, l'actualité aujourd'hui de Jankélévitch, pour vous, quelle est-elle?
Eh bien, justement, je crois qu'il avait raison. Il écrivait cette phrase à 23 ans, évidemment sur un mode très ironique, mais il s'est avéré que il est davantage, je pense, reconnu et lu aujourd'hui que précédemment. Peut-être il a fallu la maturation de cette œuvre, peut-être il a fallu la période dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une période où la morale, on a besoin de morale, on vit une période difficile, où beaucoup de problèmes se posent, et la voix de ce philosophe se fait entendre pour répondre à certaines de nos interrogations. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle... Et puis cette sincérité, cette honnêteté dans son propos, peut-être lui assure justement cette forme de postérité. Cette biographie, alors je ne suis pas philosophe de métier, j'ai suivi 25 ans ses cours, mais je suis historienne. Cette biographie, en fait, j'ai désiré la faire avec bien des atermoiements, avec beaucoup de scrupules, parce qu'il est très très difficile de parler d'abord d'un ami dont on ne veut pas trahir la pensée, et c'est d'autant plus difficile. Ce n'est pas un sujet de rédaction comme ça, c'est quelque chose de personnel. Mais j'ai été poussée évidemment par des amis et par mon éditeur. Et la raison principale, c'est que quand on m'a proposé de faire les cahiers de l'air, de rédiger cet ouvrage avec deux amis, Pierre-Alban Guinfolo et Jean-François Rey, j'ai compris que les gens qui allaient, les philosophes qui ne l'ont pas connu et qui allaient se mettre à lire cet ouvrage auront des interrogations et se demanderont pourquoi il écrit à ce moment-là sur le pardon, pourquoi sur la mort, pourquoi ils vont se poser des questions ne sachant pas son parcours de vie. Alors, je n'ai pas voulu faire, j'ai voulu faire un itinéraire au cours de sa vie lorsque les moments de sa vie éclairent son œuvre. Je me suis attachée à cela, uniquement. C'est-à-dire sa jeunesse, parce que son amitié avec Bergson et les philosophes qu'il a connus lorsqu'il était étudiant, Brunswick, la pensée de Zimmel, la pensée de Chestov, tout ça me paraissait important. Ensuite, évidemment, la grande coupure de la guerre qui nous fait comprendre certains textes que nous avons dans le livre et qui sont quelquefois véhéments et un peu difficiles à admettre pour certains qui ne comprennent pas son intransigeance après la guerre. Mais cette coupure de la guerre explique cela. Et nous avons le philosophe d'après-guerre qui infléchit à la fois sa pensée et son œuvre, parce que son œuvre est un peu différente après-guerre, d'avant la guerre. Et donc, tout cela me paraissait être utile pour éclairer toutes ces belles contributions qu'il y a dans le cahier de Lerne.
Avec une donnée importante que vous évoquez en passant, qui est que donc le cœur de l'œuvre de Jankélévitch est une œuvre de morale. Et c'est une chose qui le caractérise, c'est le fait qu'il n'y a pas d'écart possible pour lui entre ce qu'on écrit, ce qu'on pense, ce qu'on théorise et ce qu'on est.
Il n'y a avait aucun hiatus entre sa vie et son œuvre. Lorsqu'on avait la chance de le connaître très bien, on le voyait vivre dans son quotidien de la même manière que lorsqu'il professait à la Sorbonne ou lorsqu'il allait manifester dans la rue. C'était le même homme. Il y avait toujours une honnêteté, une sincérité totale, un engagement de sa personne dans les affaires de la cité. Et tout cela faisait un tout absolument, cohérent. Jamais je ne l'ai surpris avoir une pose, une posture. Non, c'était sincère. Et peut-être justement que cette forme de vie sincère, en écrivant ce qu'il pensait devoir dire dans sa philosophie, peut-être un peu, il le disait pas de cette manière, il ne donnait jamais de leçons, il ne théorisait pas, il n'y avait pas de recette. Mais c'est quand même un chemin de vie qu'il nous propose au cœur de la conscience. Lorsqu'il commence à faire dans sa jeunesse les quatre livres sur la conscience, avant-guerre, ces quatre livres majeurs, ces deux thèses, et c'est le Schelling, d'abord le Bergson. Ça, c'est pas la conscience, c'est un hommage et une réflexion sur le bergsonisme qui a emprunt sa philosophie. Ensuite, ces quatre livres sur la conscience, la mauvaise conscience, l'ironie, l'alternative, ce sont des livres de vie. Alors, après la guerre, cette pensée s'infléchit. Il est d'ailleurs Brajvik, son maître, lui reprochait d'être un peu idéaliste. Et effectivement, avant-guerre, la fougue du jeune homme le rendait. L'imprégnation de la pensée bergsonienne, qui est une pensée de la vie, de l'élan vital, de l'intuition, le rendait un peu idéaliste. Mais après-guerre, le choc est brutal. Et là, il infléchit sa pensée. Elles sont dans le sens d'une philosophie de l'action, du devoir faire, d'une morale qui n'est pas une théorie, mais qui est pratique, au sens où on ne se dit pas « je vais faire une bonne action », non. Mais il explique les manières dont l'intention morale est la source de toutes les actions des hommes, et dans quelle mesure elle induit la réflexion qu'il fait sur les vertus, sur l'austérité, le pur et l'impur, sur la mort, sur le pardon. L'intention morale est présente, évidemment, au cœur de la temporalité, parce que c'est un grand philosophe du temps.
Alors, avant effectivement d'en arriver à cette pensée-là, peut-être redonner le cadre dans lequel il naît, il grandit, puisque c'est aussi un cadre très important dans la mesure où, entre autres, la figure de son père est une figure essentielle dans la formation intellectuelle de Jean Kelevitch.
Majeur. Son père est un médecin qui est venu faire sa médecine à Montpellier, où il a rencontré son épouse qui était médecin aussi dans les années 1880. Et puis, comme il y avait des pogroms, ses parents, on lui ont dit de ne pas rentrer. Donc, il s'est installé à Bourges, où il s'est installé comme médecin otorino. Et tout en menant cette activité médicale, il était un érudit, un humaniste lettré. Il traduisait de 6 langues. Il traduisait aussi bien, évidemment, du russe que de l'anglais, que de l'italien, que de l'allemand. Principalement puisqu'il est le premier introducteur de Freud en France, c'est le premier à avoir traduit le docteur Samuel Jankélévitch, pour le citer, et le premier à avoir traduit Freud. Il y a d'ailleurs une correspondance, mais elle est à la librairie de Congress Library de Washington. On n'en a pas la teneur, mais comme me disait son fils, en fait, c'était surtout des conseils qu'il demandait à Freud lorsqu'il y avait des mots compliqués comme le ça, le surmoi, comment traduire ça en français, des notions. Elle n'a pas, d'après son fils, un intérêt plus intéressant que ça. Et donc, comme il était médecin, il est otorino, mais il s'intéressait à toute la science. Il faisait partie d'une revue Scientia et tout ça. Il a développé aussi quelques intuitions, notamment l'une, celle concernant le cancer. en disant, très jeune, dans les il avait expliqué que le cancer, ce n'est pas une cellule qui nécrosée, mais c'est l'inverse. C'est une cellule juvénile qui se met à prospérer. Elle est en folie, cette cellule, et elle gangrène après le reste, l'organisme qu'elle atteint. Et cette intuition était très, très profonde. Par ailleurs, il avait des notations sur les mourants, sur les... Il aurait voulu lui-même, d'ailleurs, d'après ce que m'avait dit son fils, écrire sur la mort. Et puis, il n'a pas eu le temps, il ne l'a pas fait. Mais son fils s'est servi de ses notations pour écrire son livre sur la mort. Alors, ils ont cheminé ensemble, évidemment, toute leur vie. Il allait le voir tous les jours. Pendant la guerre, ils étaient ensemble à Toulouse. Il n'y a jamais eu de... C'était une... Comme il l'a dit, d'ailleurs, il l'a écrit, c'était aussi un ami avec lequel il parlait et il ne philosophait peut-être pas, mais les idées, comment dirais-je, de son père l'ont sûrement influencé. Et c'était c'est pour lui une personnalité effectivement marquante. Il avait, grâce à lui, il a connu des philosophes de l'immigration comme Berdiaev, Chestov, qui était réfugié à Paris. Il a baigné dans ce milieu russe. Il a fait un diplôme, en plus de parler le russe, évidemment, puisqu'il le parlait avec ses parents. Il a fait un diplôme de russe aux langues orientales. Il s'est intéressé aussi. Il a fait un article sur la philosophie russe au début du siècle, les thèmes mystiques dans la pensée russe au début du siècle. Donc il y a toute cette appréciation russe. Mais comme il le disait en riant, je suis berrichon. Étant né dans le Berry, je suis berrichon. Et effectivement, il est resté à Bourges. Ses parents ont déménagé juste avant la guerre, je pense, de 14, pour que les enfants aillent au lycée et puissent faire leurs études au lycée. Lui, il a fait ses études au lycée Montaigne, notamment, puis après, évidemment, Normale Sup et le reste, et la Sorbonne. Et donc, ils sont arrivés à Paris. Son père s'est installé comme médecin otorino 53 rue de Rennes, où il exerçait jusqu'à la guerre. Et à la guerre, évidemment, ils se sont réfugiés à Toulouse. Et ensuite, il était trop âgé. Il n'a plus exercé sa profession.
Mais cette imprégnation...
Et d'ailleurs, vivait dans cette maison, oui, pardon, Cassou, son beau-frère, Jean Cassou, et qui vivait aussi avec lui. Et qui, lui, alors, était... Enfin bref, c'est une autre personnalité.
Oui, on la réévoquera, je pense, que c'est une figure importante, Jean Cassou, dans le parcours de Jean Kelevitch.
Tout à fait aussi.
À la fois via la poésie...
Fraternel, et... il y avait un fraternel cheminement, l'un plutôt orienté vers la peinture... Jean Kelevitch plutôt la musique, mais les deux arts n'étaient pas en compétition.
Tout à fait. Non, puis même, on réévoquera parce que la peinture n'est pas du tout absente chez Jean Kelevitch. Et ce qui est important, vous l'avez évoqué en passant, mais je pense qu'on peut y rester un peu, sur cette imprégnation russe d'un point de vue philosophique et entre autres le poids de Léon Chestov, parce que ça détermine aussi quelque chose sur, dès le début, l'importance de l'insaisissable, c'est-à-dire l'importance qu'il y a à comprendre. Voilà.
Oui, c'est voilà. Cela. La pensée de Chestov est une pensée des confins, des limites. Il a écrit un livre sur les confins. Et Jean Kelevitch, il disait, quand j'étais jeune, je me prenais pour Chestov. J'étais un Chestov réincarné. Et donc, cette pensée l'anime, parce que Chestov, justement, n'écrit pas des livres de théorie, mais dans ses ouvrages, il dit toujours, la philosophie est une éveilleuse, on doit être curieux. Elle éveille la curiosité amoureuse. Et surtout, pourquoi faudrait-il toujours parcourir les mêmes chemins insipides du tourisme philosophique, mais ne pas ouvrir des voies nouvelles? Et donc, Chestov allait aux limites. Il avait une pensée, comme on l'a dit, adossée à Jérusalem et à Athènes, donc les deux, la Grèce et la pensée biblique. Et cette pensée n'était pas théorisée. Elle était fine, elle était... comment dirais-je, fluente. Elle ouvrait des perspectives sur la manière dont il faut aller penser une notion jusqu'aux limites où la pensée se brise, aller l'approfondir, et à un moment, on arrive au presque rien. On arrive à un moment où elle se brise. Donc cela était une manière de philosopher qui lui convenait. La deuxième chose qui est importante de noter, c'est que Chestov écrivait beaucoup par aphorismes. Et Jean Kelevitch aimait cela, les aphorismes, c'est-à-dire des petites choses courtes, mais qui, en trois mots, vous donnent l'envie de vous envoler vers un ailleurs. Et les aphorismes et la façon de... en fait, ça, c'est peut-être là l'origine de son livre sur l'ironie, parce que l'ironie, au fond, c'est une pensée de la litote, de l'aphorisme. Et je pense que peut-être que, avec Kierkegaard et le livre sur l'ironie de Kierkegaard, Chestov a été un maître de ces pensées rapides, courtes, incisives, et qui vont au cœur des choses, sans passer par tous les philosophes qui ont précédé, par exemple, oui. Sans faire une étude, mais la pensée est directe. Elle va au cœur des choses.
Avec un autre, on va dire, un autre bloc fondateur chez Jean Kielevich, qui est donc Bergson, et qui est très, très important, parce qu'à la fois, c'est l'intuition, c'est le temps, et c'est aussi la question de la langue et l'élan vital.
Et l'élan vital. En fait, alors, avec Bergson, sa rencontre se fait sous les auspices de Plotin. Tout jeune, Jean Kielevich, qui avait comme professeur Henri Breyer, qui avait traduit les Énéades de Plotin, lui conseille un diplôme sur un traité, le traité de 1-3 de la dialectique de Plotin, que j'avais à la maison. Je l'ai donné maintenant. Enfin, il était chez moi jusqu'à un certain moment. Il est à la Bibliothèque nationale. On peut voir cette écriture violette, toute petite, sans rature, où il, d'un seul jet, il développe cette belle pensée sur Plotin. Et à ce moment-là, au moment où il commence à travailler sur Plotin, Bergson avait fait un cours sur Plotin au Collège de France. Donc, son ami, il demande à Braunschweig. Braunschweig lui dit, mais au fond, écrivait à son maître Léon Braunschweig, écrivait à Bergson pour lui demander s'il n'a pas des notes de ses cours. Bergson lui répond qu'il n'avait rien gardé, il n'avait pas de notes, que c'était oral et qu'il n'y avait pas à l'époque les enregistrements d'aujourd'hui, mais qu'il était prêt à le recevoir et à parler de lui, de Plotin et d'autres choses. Et là s'engage à la fois une correspondance et des visites que rendait très régulièrement Jean Kielevich à Bergson, boulevard Beau Séjour, et une correspondance que j'ai insérée dans les cahiers de Lerne. Il y avait déjà des lettres qu'on connaissait, mais là, elle est exhaustive. Alors évidemment, nous n'avons pas les lettres de Jean Kielevich, nous n'avons que les lettres de Bergson. Et chaque fois que Jean Kielevich écrivait un article, parce que dès 23 ans, dès l'âge de 21 ans, il écrit des articles dans la revue de morale et de métaphysique, fondée par Xavier Léon. Et dès qu'il écrit un article sur Bergson, il lui en donne la primeur. Et Bergson lui répond en lui parlant de cet article. Et petit à petit, au fil de ces articles, et avec l'encouragement de Bergson, qui trouve en lui un interlocuteur privilégié, il écrit ça, il rassemble tout ça, et il en fait un livre en 1930 qui s'appelle Bergson. Il a 27 ans, il est tout jeune, et il ose écrire sur ce qui est le prix Nobel et le grand maître de la pensée en France. Et dans ce livre, évidemment, on voit à quel point Jean Kielevich est proche de cette philosophie de l'intuition, de l'élan vital. Quand on lui demandait quel est le principal apport de Bergson, lui commençait par dire la temporalité. La temporalité est l'idée nouvelle qu'apporte Bergson dans la philosophie d'aujourd'hui. Alors, si on veut affiner, on pourra dire que l'idée de la temporalité chez Jean Kielevich ne sera pas tout à fait la même. Bergson, en un mot, est le philosophe de la durée, plutôt, et Jean Kielevich de l'instant. Tout à fait. Mais il y a une source commune qui est le désir de s'appesantir et de tourner autour de ce temps qui nous voue au presque rien, mais qui est l'enveloppe de notre condition intermédiaire sur Terre, quoi.
L'intuition et le vitalisme qui est une chose aussi très très importante, parce que c'est ça court dans toute la durée de l'œuvre de...
Tout à fait. Alors le vitalisme, quand il est très jeune, il est enthousiaste tout d'abord par Georg Simmel, dont les œuvres parlent de la vie, le Mers et le Leben, c'est-à-dire plus que la vie. La vie est plus que la vie. La vie a un courant qui vous emporte et qui vous amène au-delà de ce que vous pensez faire ou dire. C'est ce courant vital, c'est et en fait, pour Jean Kielevich, tout se passe ici-bas. Dans l'au-delà, il n'y a pas une pensée transcendante. Et donc, chez Bergson, comme chez Simmel, il a trouvé cette, comment dirais-je, ce fondement, cette assise très solide qui est l'étude de la vie, de l'expérience humaine, de tout ce qui arrive à l'homme durant son parcours sur Terre. Et cela, ce vitalisme parcourt cette œuvre, il ne se dément jamais. Et même après-guerre, si d'autres choses ont changé, il demeure toujours un philosophe de l'expérience, des choses que nous-mêmes nous vivons sur Terre et non pas des abstractions théoriques que l'homme auquel s'intéresse d'autres hommes. Alors, il a tout lu, bien sûr. Il a une forte érudition. Jean Kelevitch est un homme très érudit. Donc, il a absorbé beaucoup de choses pour arriver à cette pensée beaucoup plus fine de l'expérience humaine et de la façon dont l'intuition, l'élan vital nous permet d'accéder à l'intention morale, notamment au jaillissement jaillissement de l'intuition au cours de la vie est pour lui le point central. C'est le moment où il dit personne n'a le droit, personne n'est autorisé à avoir l'étincelle. Ce n'est pas un droit. Mais si un jour cette étincelle arrive d'aller au fond de soi et de rechercher des choses profondes, eh bien, c'est le divin moment qu'il recherche lui en philosophie. Alors que pour Bergson, c'était plutôt un philosophe de la temporalité s'inscrit dans une durée, dans un moment long, dans un temps long, presque un intervalle. Alors que pour Jean Kelevitch, l'intervalle, c'est plutôt le moment, c'est-à-dire le temps long, c'est plutôt le moment où la complaisance s'installe, le retour sur soi. On commence à se dire, est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui ? J'ai donné à quelqu'un, mais on se retourne sur le fait d'avoir fait l'aumône. On est dans la répétition d'une chose qui doit être innocente et spontanée.
Et c'est voilà. Là où on retrouve le portrait que vous en faites dans la préface du livre. Il y a une impatience chez Jean Kelevitch. Il y a une urgence, il y a une vitesse et qui se retrouve même dans sa façon de marcher.
Tout à fait. Il courait. On n'arrivait pas à le suivre. Il volait à ses cours et ça lui allait bien, le philosophe qui va, vous savez, dans Platon, on voit celui qui va, celui qui marche, et un peu comme Eros aussi, l'amour ailé qui court. Eh bien, c'était un philosophe impatient. Il était dans la vie, il était dans l'urgence d'écrire. Il pensait qu'il fallait tout de suite dire ce qu'on a à dire, ne pas attendre. Et cette impatience de vivre et de dire ce que l'on a à dire a créé évidemment cette œuvre qui est longue, mais qui jaillissait toujours. Elle naissait d'un... Je crois que chaque livre et chaque notion qu'il étudie dans ses livres naissait d'un besoin, spirituel, au fond, d'expliquer les choses, qui se matérialisait dans une philosophie rigoureuse. Alors, et souvent, Jean Kelevitch, lorsqu'il a écrit, par exemple, Je ne sais quoi, elle presque rien, on disait qu'elle est cette hurluberlu avec des titres comme ça. Et on l'a pris pour un joyeux luron qui écrivait des choses un peu... Beaucoup de personnes qui n'ont pas approfondi ses livres sont restées à la surface. Or, en fait, si cette pensée et cette écriture est luxuriante et comment dirais-je, prolixe, en employant, elle est nourrie de son érudition, elle est aussi le véhicule d'une pensée tout à fait rigoureuse. Et on croyait que ses cours étaient improvisés, il en donnait tout à fait l'impression à la Sorbonne, et moi je savais, il ne le disait, il travaillait une semaine comme un forcené pour un cours. Alors après, évidemment, tout coulait de source, puisque cette pensée avait été déjà réfléchie pendant longtemps. Elle était formulée dans sa tête. Et ensuite, il pouvait se permettre de l'improviser en nous la livrant, à nous, ses étudiants. Mais c'était très rigoureux. Il y avait un plan, et c'était très rigoureux. Ce n'était pas de joyeuses approximations.
Oui, il y a cette phrase de Lévinas que vous citez, où Lévinas dit on avait le sentiment que le langage ne faisait pas obstacle à sa pensée.
À sa parole, exactement, parce que ça coulait de source. Et je vais vous dire, il nous éblouissait. Et puis alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté comment dirais-je, plein d'humour de cette pensée. Alors, il adorerait pouvoir faire adhérer son auditoire. Et donc, à ce moment-là, pour faire adhérer son auditoire, les traits d'humour lui venaient très, très spontanément. Le Vésuve qui fume au loin son cigare. À quel instant le physique va-t-il tourner en métaphysique ? Enfin, c'était un jaillissement de choses très drôles. Et dans la vie de tous les jours, quotidienne, il l'était. Il était... et c'était une pensée pleine qui était légère et qui ne s'appesantissait pas sur le propos, mais qui nous donnait toujours une envolée. Il y avait une envolée possible dans sa pensée, et bien sûr, on assistait cette pensée fougueuse, chatoyante, brillante. Rendait ses auditeurs tout à fait béats d'admiration, parce que, alors, on comprenait quelquefois pas tout, il y avait quelquefois, mais il s'en rendait compte. Et comme c'était un vrai professeur, d'ailleurs, il a toujours dit: je ne suis qu'un professeur. Il se voulait plus professeur que philosophe. Il n'a jamais dit: je suis un philosophe. Il disait: je suis un professeur, je ne suis qu'un professeur. Et l'oralité convient très bien à ma façon de philosopher, donc de parler, de rendre mes idées perceptibles aux autres. Et donc, cette pensée, justement, il avait besoin de la communiquer de façon vivante, de professeur à auditeur, à étudiant. C'était pour lui, ce n'était pas un pinsomme, c'était la joie d'enseigner. Et quand, je reviens à ce que je disais, quand il voyait qu'on décrochait, parce qu'il s'en rendait compte, alors il répétait, il insistait, il enfonçait le clou plusieurs fois. D'ailleurs, c'était sa façon, même dans ses livres, il y a beaucoup de répétitions, mais tout ça pour essayer de rendre plus clair un propos qui, quelquefois, est quand même un petit peu difficile à appréhender du premier coup. Il vaut mieux qu'au bout de 2-3 fois, on a bien compris, parce que c'est toujours aux limites de l'impapable, des choses difficile à formuler aussi. Des concepts. Oui. Il se méfiait des concepts. Toute cette pensée conceptualisée.
Et ce que vous dites de la joie qu'il avait à enseigner et qu'il vous partageait est lié aussi au fait que ce n'est pas une pensée du tragique du tout, Jean Kelevitch. C'est-à-dire que la conscience n'est pas prise dans une...
Optimiste, oui. Alors, sa pensée du tragique, elle viendra après la guerre, lorsqu'il écrivra des choses difficiles sur les événements de la guerre. Mais dans sa philosophie propre, c'est une philosophie du faire et une philosophie de la création dans le bonheur et dans la joie. Comme Bergson, c'est un philosophe de la joie. D'ailleurs, il disait toujours: si la joie se perd, le monde n'en deviendra pas meilleur. Donc, essayons de profiter des instants comme ça qui s'offrent à nous, ou quelques instants de joie apparaissent. Il était le philosophe, évidemment, de l'occasion, de la rencontre. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. Vivez pleinement votre journée. Ne faites pas de retour sur vous-même, mais allez de l'avant. Ça ne se représentera jamais deux fois. Donc, tout cela va dans la futurition. Le mot qu'il aimait beaucoup, qui n'est pas compliqué, mais qui paraît peut-être barbare, c'est futurition. Eh bien, oui, l'homme est un devenir. On est dans un devenir perpétuel. Et dans ce devenir, eh bien, on s'inscrit dans une marche dans la futurition. Et cette marche, elle est émaillée de moments de bonheur, de moments de retour sur soi, évidemment aussi, mais surtout d'approfondissement dans son être des choses les plus infimes, les plus imperceptibles de la vie. Il aimait pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai oublié, on pourrait en dire qu'il aimait Tolstoï, qui est un écrivain de l'immédiat, des choses immédiates, tout comme Bartok, qui dans sa musique nous fait ressentir les sons les plus imperceptibles. Et donc cette immédiateté aussi de l'instant vécu, du moment vécu qu'il ne faut pas laisser passer, est quelque chose de fondamental dans sa pensée.
Et est-ce que tout ce que vous décrivez là fait quand même profondément écho aussi à la pensée et la pratique qu'il a de la musique, c'est-à-dire qu'effectivement aussi bien la joie, la répétition.
Il y a deux oui. Alors la musique, c'est une, comme il disait, je ne joue pas du piano, ce n'est pas un passe-temps. C'était quelque chose qui l'irriguait complètement. Et il aurait aimé, il a dit cette phrase, trouver une façon musicale d'écrire sur la musique. Pourquoi ? La musique, c'est art du temps. Et pourquoi ? Il n'aimait pas les disques. Il préférait de beaucoup le concert, parce que la musique se vit à l'instant du concert, puis disparaît. Tout comme il jouait tous les soirs 2 heures en déchiffrant les musiques qu'il aimait sur son piano. Et là, il était, comment dirais-je, il était dans un monde enchanté. Et nous aussi, quand on l'écoutait, parce que il découvrait, ce n'était pas des œuvres toujours entendues. Il aimait aussi, ça correspond aussi à ses goûts musicaux. Il aimait découvrir des choses nouvelles et des choses peu connues. Son amour pour Gabriel Dupont, dont il dit qu'il aurait pu devenir un Debussy. Son amour pour Déodat de Sévrac. Des musiciens qui ne sont pas automatiquement joués. Alors évidemment, les trois grands piliers de son affection en musique, c'est évidemment Debussy, Fauré, Ravel, les trois maîtres, et Liszt, bien sûr, et Liszt. Et je pense, alors il aimait aussi Chopin, il a écrit sur le Nocturne, mais la musique française, le début de la musique française, il appelle l'impressionnisme musical qu'il découvrait chez Liszt, eh bien, ça, c'est effectivement une espèce ça fait appel à, et ça nous rappelle le temps qui coule, les choses qui coulent dans ses livres. Ce sont des musiques fluides, ce ne sont pas des musiques pesantes, ce ne sont pas des symphonies bien, bien pesantes, ce sont des musiques légère et profonde, mais qui coule comme la vie coule dans ses livres. Eh bien, la musique irriguait aussi sa pensée. Et d'ailleurs, dans ses livres de philosophie, on a de nombreuses notations musicales. Et dans ses livres de musique, on voit que c'est un philosophe quand même qui écrit. Il y a pas de passerelle. Alors, quand on lui posait la question, y a-t-il une correspondance entre les deux, il disait, vous me la posez, moi, je ne me l'étais pas posée. Les personnes qui lui ont posé cette question l'ont amené à réfléchir sur cette correspondance. Et dans son livre le plus important, qui s'appelle « La musique est l'ineffable », nous voyons bien les rapports qu'il y a entre sa pensée philosophique et la musique. Il l'a développé essentiellement dans ce livre.
Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises la rupture de la guerre, qui est une rupture à plusieurs niveaux, dans la mesure où à la fois ça vient interrompre, on va dire, une sorte de carrière qui se lançait, parce que à la fin des années 30, il était brillant et reconnu,
il faisait partie effectivement des jeunes philosophes prometteurs, effectivement.
Et c'est aussi une cassure morale en lui par rapport à la représentation qu'il a de la France.
Tout à fait. La France humiliée, la France sous le joug. Lui-même radié de l'université parce que de confession juive, se retrouvant du jour au lendemain sans la joie, sans le bonheur d'enseigner. Et contraint, alors il a contourné cela en donnant des petits cours dans un café, au café du Capitole, ou en réunissant des étudiants chez lui, parce que évidemment il fallait continuer à travailler, il n'avait plus de moyens de vivre à ce moment-là. Alors il y a la conjonction d'être traqué lui-même. Il faut quand même préciser que lui-même était un ancien combattant, qu'il a été mobilisé, il était officier de réserve, il a été mobilisé en 39, il a été blessé pas très gravement, heureusement, et après sa blessure, il s'est replié à Toulouse, il était blessé à Mantes, où ses parents se trouvaient. Il n'a plus quitté Toulouse pendant toute la guerre, et c'est à Toulouse que, en tant que jusqu'en 42, c'était la zone libre, il pouvait encore un peu respirer, vaquer à ses cours qu'il donnait à des étudiants. Et puis ensuite, après la zone libre, le danger évidemment était perceptible. C'est un philosophe traqué, effectivement. Et puis l'humiliation de la France, la façon dont il avait l'impression il avait l'impression d'être au fond du gouffre, finalement, pendant ces années de guerre, en disant un peu amèrement, à Paris, on dirait qu'il ne se passe rien. On continue à écrire, voilà. Et la guerre n'est pas là pour tout le monde. Mais lui, il la vivait très profondément. Alors, effectivement, il y a quand même eu des il a quand même réussi à écrire aussi des choses. Il a participé à des mouvements de résistance, mais avec les mots, comme il le disait, pas avec les armes, parce que je crois qu'on se méfiait peut-être un peu des philosophes en se disant dans le maquis, il serait peut-être bon. Et puis donc, mais il avait sa façon à lui d'entrer, d'être dans, de participer à la résistance.
Avec cette chose assez étonnante qui est en fait, il a quand même, c'est le moment où il est en pleine gestation du traité des vertus. C'est-à-dire que...
C'est avant-guerre et il le poursuit. D'ailleurs, sa nièce, la fille de Jean Cassou, qui avait 15-16 ans et qui, à l'époque, mais qui écrit ça bien plus tard, dit que c'était le fait d'un humoriste de se balader avec son manuscrit des traités des vertus sous le bras à Toulouse au moment de la guerre. Ça ne peut être que le fait d'un humoriste. Alors, il a continué effectivement à écrire. Il a surtout écrit deux petites choses qui ont été publiées par ses élèves. Avant-guerre, il avait été professeur de Cagnes à Lyon, où il avait gardé des amitiés très, très, très belles amitiés avec ses élèves. Et trois de ses élèves ont publié pendant la guerre, à Lyon, des éditions de La Confluence, de René Tavernier, le père du cinéaste, qui était un courageux éditeur, son petit livre sur le mensonge et le malentendu, et surtout un petit essai sur le nocturne. Et alors, il est évidemment ravi, il dit « je vais être imprimé en papier bouffant », il est tout heureux, il raconte ça à son correspondant, lui, en montrant le bonheur qu'il a, parce que lui continue à écrire, et le fait d'être encore publié, il n'est pas complètement... anéanti. Il est anéanti pour l'enseignement, pour l'éducation, pour son métier de professeur pendant cette période où il n'est pas bon. Mais par contre, il continue évidemment à écrire. Et après la guerre, à la fin de la guerre, la blessure était de. Il ne savait pas encore l'ampleur de l'Holocauste et tout ça. Mais la blessure est telle quand même de la façon dont il a été éjecté, rayé de l'université à cause de ses origines, qu'il ne rentrera pas tout de suite. Il va rester un an à Toulouse encore comme directeur des programmes de Radio Toulouse-Pyrénées. Année très, très heureuse où il a fait... Et c'était une année de bonheur pour lui. Il faisait ce qu'il aimait. Il programmait des émissions de musique. Et c'est seulement au bout d'un an que... Il s'est décidé à retourner à Paris et à prendre son enseignement à Lille. Il était maître de conférence à Lille après la guerre.
Et ce que vous montrez bien aussi, il y a une sorte de paradoxe dans la deuxième partie de la carrière de Jean Kelevitch dans l'après-guerre jusqu'aux années 80, c'est que à la fois, et ça vous y insistez, il y a un engagement permanent, si l'on veut, il est présent dans la cité très profondément. Et en même temps, on a le sentiment qu'il ne dialogue plus du tout avec la philosophie de son époque.
Bien sûr, il y a une mise à distance. Alors, cette mise à distance est-elle le fait de sa protestation après la guerre, parce qu'il a écrit quand même un article qui s'appelle « Dans l'honneur et la dignité », où il s'insurge contre des lois d'amnistie. Les collaborateurs seraient trop vite, on aurait trop vite oublié, les homoncules vaquent à nouveau à leurs occupations. Et donc, cette espèce de protestation et le fait de vouloir toujours témoigner et de maintenir vivant le souvenir de l'époque passée, l'a sûrement mise à distance des philosophes qui, venant arriver la mode des philosophes d'outre-Rhin, comme il dit, se sont mis à avoir des pensées dont tous les mots finissent en isme. Cela provient sûrement de sa mise à distance de son fait, mais peut-être aussi provient-elle aussi de la façon dont il avait de philosophie, qui n'est pas la même que celle de ces philosophes un peu en troupeau, qui sont embrigadés. Lui était un philosophe inclassable, qui n'entrait dans aucun système, dans aucune, comment dirais-je, dans aucune, oui, dans
aucune école, aucune.
On ne pouvait pas aucune école, pas d'école pour se mettre, non, pas du tout. Et donc, peut-être que cette méconnaissance dont il a souffert et dont je parle après la guerre provient-elle des deux faits, de la conjugation de ces deux faits. Il n'y a pas seulement la nouveauté de ceux qui paradent et qui mettent leur philosophie en avant dans les médias, mais il y a aussi sans doute une part personnelle qui a joué. Et alors évidemment, cette méconnaissance, il en a souffert, il a d'ailleurs écrit des pages très profondes qu'il a insérées plus tard dans le remaniement de son je ne sais quoi et presque rien, et où il explique exactement qu'on est souvent méconnu, non pas pour ce qu'on est, mais Enfin, le méconnu deviendra un jour reconnu, pense-t-il quand même. Il le dit, il a quand même toujours cette. Il dit ça de Zimmel. À un moment, il parle de Zimmel. Il était très méconnu, mais il deviendra reconnu. Mais peut-être pense-t-il aussi à lui en parle. Et il analyse les écheveaux, les fils des écheveaux de tout ce qui tisse un sentiment de méconnaissance avec une grande finesse. La façon dont la mise à distance par rapport aux autres s'organise dans ce sentiment où ce n'est pas qu'on veut pas connaître, c'est qu'on méconnaît, c'est-à-dire la pensée. Et ce texte, oui, provient sûrement d'une expérience de son expérience personnelle, d'une expérience vécue. Ça, ce n'est pas, ça ne fait pas aucun doute. Aucun doute.
Je vous en prie.
Non. Alors après, évidemment, cette purgatoire a duré une quinzaine d'années. Et puis, en fait, au moment où il publie La Mort, en 1966, alors là, il y a un événement. Ce livre est très lu et il en est tout étonné. Mais le livre est vraiment un livre qui touche son but, du moins auprès des philosophes, si ce n'est auprès du grand public. Ensuite, ses thèses sur le pardon aussi le rendent plus visible. Parce que comme il prend des positions sur ce sujet, sur l'impossible pardon, et que ces positions-là sont fortes, son témoignage et tous ses écrits que j'ai réunis dans le livre L'Esprit de résistance, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il a fait en dehors de son il avait en fait Jean-Kélévitch, c'est trois personnes, c'est le philosophe, le musicien et l'homme engagé, mais engagé au sens aller dans la rue, l'infatigable homme de gauche, celui qui s'occupe, qui a le cœur près des minorités, qui n'est pas du côté des rugissants, comme disait Max Jacob. Ça, tout cela, il y a les trois facettes. Et on ne peut pas les dissocier. Et là, donc, cette troisième facette est illustrée dans ces textes, et notamment dans La Prescriptible, qui paraît en 1965, qui est une protestation contre la possibilité de prescrire les crimes contre l'humanité.
Avec cette donnée aussi que vous évoquez quand vous parlez du traité des vertus, mais qui, je pense, recouvre l'ensemble de l'œuvre de Jean-Kélévitch, qui est que le but de l'homme, de la morale, n'est pas de rendre l'homme heureux, mais de transcender les possibles. Et je pense que c'est comme quelque chose qui ouvre complètement la lecture de Jean-Kélévitch.
Tout à fait. Il faut de temps en temps aller au-delà de soi. Lorsqu'il parle des résistants, et il en parle souvent, de l'action courageuse du résistant qui fait un choix dans la nuit, en s'engageant en totale innocence, en pleine sincérité, eh bien, c'est une forme de vie qui le dépasse un moment. Alors, bien sûr, comme il le dit, il ne restera pas un héros toute sa vie, ou bien sûr, il perdra la vie, ce qui a été le cas de beaucoup de philosophes comme Cavaillès, Cusin et tant d'autres, ou bien il rentrera dans le rang. Et cette action courageuse n'aura pas de prolongement dans sa vie. Ça aura été un épisode, un épiphénomène, mais un épiphénomène ô combien important. Et donc, c'est tout à fait vrai. C'est en cela que cette morale est une morale de vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler simplement du courage en disant ce que c'est le courage. De temps en temps, il faut qu'elle soit illustrée par des personnes qui le mettent en pratique. On ne peut pas dire simplement qu'est-ce que c'est la fidélité si on n'est pas fidèle aux souvenirs du passé, si on fait table rase de ce qui s'est passé juste 15 ans avant pour aujourd'hui ouvrir des voies nouvelles. Ce n'est pas un philosophe passéiste, parce qu'au contraire, c'est un philosophe qui vous engage à aller dans l'action, dans le faire, et de faire, c'est à moi de le faire, et séance présente, et séance tenante, et dans l'immédiat, je dois faire, je dois agir. Donc ce n'est pas du tout une pensée passéiste, mais elle s'appuie sur un substrat qui est quand même un passé vécu. On ne peut pas suspendre sa vie simplement à l'ère du temps. Donc il y a cette profondeur dans les actions. Cette profondeur, elle provient à la fois de l'homme qui a vécu les choses et puis qui, à un moment, en rupture avec ce qu'il est en train de vivre, agit. Parce qu'au fond, c'est toujours un soudain. Tout d'un coup, il y a l'action. Cette action provient d'une bonne intention, espérons qu'elle est bonne. Elle se coltine avec les forces du mal, elle se coltine avec la vie de tous les jours. Mais il y a les deux pieds dans la glaise, il faut agir. Donc, c'est une philosophie comment dirais-je, terrestre, mondaine, qui a lieu dans cette, comme il disait, dans l'intermédiarité médiocrisante de la vie. Il y a des moments où il faut, comment dirais-je, où l'homme réussit cette percée. Et c'est une forme de percée vers la transcendance, qui n'est pas une transcendance qui se situe dans les cieux, mais qui, c'est le moment où l'homme se transcende, c'est-à-dire fait des choses qui sont au-delà de sa pauvre petite vie d'homme quotidienne. Je crois que j'ai répondu à ce que vous vouliez dire.
Tout à fait. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous rendre Jean Kelevitch aussi vivant et dans la profondeur et l'invitation à l'action qu'est profondément sa philosophie.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas une philosophie théorique. Ce ne sont pas des ouvrages à ranger sur une étagère après les avoir lus, mais il faut les relire et il faut s'imprégner de ce qu'il nous propose. Il faut, comment dirais-je, donner suite à ses injonctions, alors que ce n'est pas un professeur de morale. Jamais il ne vous dit ce qu'il faut faire, mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de trouver la manière de le faire. Il ne vous dit pas il faut faire telle manière, mais il vous donne l'injonction. Enfin, il vous présente une injonction morale qu'il est bon de suivre. Et ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas du tout un moraliste au sens d'un prêcheur, un frère prêcheur, pas du tout. Il n'y a jamais de, comment dirais-je, de prêcha. C'est toujours s'ouvre toujours des pistes que l'homme, dans sa façon d'envisager la vie, la moindre chose de la vie, doit pouvoir de temps en temps attraper au vol, quoi, saisir l'insaisissable, saisir le je ne sais quoi, le presque rien, l'occasion, la belle rencontre. Voilà, c'est cette pensée là c'est en quoi il nous aide à vivre. Enfin, en moi, il m'aide à vivre.
Écoutez, je ne peux imaginer de meilleures conclusions. Merci beaucoup, François Schwab, pour cette présentation, et merci pour votre biographie.
Merci, c'est moi qui vous remercie.